Merci d'écouter RFI. 13h10 en temps universel, il est 8h10 à Quito. C'est l'heure du rendez-vous d'Haïti et des Amériques. Bonjour Marion Kazanov.
Et bonjour Anne, bonjour à tous. Après les manifestations, les négociations en Équateur, le gouvernement et les communautés autochtones tentent de s'entendre pour régler cette crise sur le coût de la vie. Pour l'ancien président Rafael Correa en exil en Belgique, l'affaire montre l'échec du gouvernement de Guillermo Lasso.
Le gouvernement, c'est un échec total. Il doit être mis à la porte. Il doit avancer les élections pour démocratiquement résoudre les conflits et pour la corruption. Et
Rafael Correa, qui est d'ailleurs accusé par le président de déstabiliser à distance le pays. Au sommaire également au Brésil, le parti de Lula dénonce le meurtre de l'un de ses militants par un pro-Bolsonaro. Au Canada, le Premier ministre présente des excuses officielles aux descendants des militaires afro-canadiens. Et puis, comme tous les jours, le journal de l'Outre-mer présenté par Odane Agiali. Odane, aujourd'hui, vous nous emmènerez en Martinique où les professionnels de l'enseignement réclament plus de moyens pour l'école.
Des enseignants qui réclament l'ouverture de postes supplémentaires sur le territoire. Leur mouvement pourrait prendre de l'ampleur ces prochains jours. Et puis on parlera agriculture, toujours en Martinique, avec le portrait d'une famille où l'on cultive la terre de génération en génération, Marion.
Et à tout à l'heure, Odane.
Assumimos la responsabilidad. Et approuvons la partie méthodologique et la partie opérative.
Cette voix, c'est celle de Leonidas Issa en Équateur. Il est le président de la CONAI, la Confédération des nationalités indigènes du pays. Et il s'exprimait jeudi, après avoir trouvé un accord avec le gouvernement pour entamer les discussions. Cet accord a permis de mettre fin à 18 jours de manifestations sur le coût de la vie qui ont bloqué le pays. C'était d'ailleurs la plus longue grève des communautés autochtones dans l'histoire de l'Équateur. Un accord donc sur la méthode, mais presque aussitôt, les relations se sont tendues de nouveau entre les deux parties. Marie Normand, vous suivez pour RFI la situation. Bonjour.
Bonjour.
Et après cet accord sur le contenu des négociations, les vraies discussions sont censées ouvrir mercredi entre la CONAI, cette confédération des mouvements autochtones, et le gouvernement.
Oui, les deux parties s'étaient mises d'accord jeudi dernier sur l'organisation de 10 tables rondes thématiques pendant 90 jours pour tenter donc d'aborder les différentes revendications des manifestants. C'est ce que prévoyait l'accord de sortie de crise après ce mouvement qui a paralysé le pays pendant 18 jours. Un accord qui décidait aussi d'une réduction de 15 centimes des prix du carburant, l'une des principales demandes. Mais vous le disiez, eh bien depuis jeudi, la situation s'est à nouveau tendu. En cause, une interview donnée par le président Guillermo Lasso dans laquelle il aborde les présumés soutiens financiers des grévistes. 15 millions de dollars, dit-il, financés par le trafic de drogue. Et des propos qui ont créé un tollé. La CONAI a publié un communiqué dans la foulée. Elle accuse le président Lasso de tenter de délégitimer, de stigmatiser les manifestants. Elle l'accuse aussi de méconnaître les réseaux de solidarité qui peuvent exister au sein des communautés autochtones et qui explique l'allongement de ce mouvement.
Le président Guillermo Lasso ne s'est pas arrêté là. Il affirme aussi que l'ombre de son prédécesseur Rafael Correa plane sur ces manifestations. En exil en Belgique, il chercherait à déstabiliser le pouvoir en place, selon Guillermo Lasso. Rafael Correa avait été condamné en Équateur pour corruption et a donc obtenu récemment l'asile politique en Belgique. L'ancien président était de passage à Paris, Marie, la semaine dernière. Vous l'avez rencontré à cette occasion. Rafael Correa devait normalement s'exprimer devant l'université de la Sorbonne.
Oui, une conférence magistrale qui n'a jamais eu lieu, annulée la veille sous pression de l'ambassade d'Équateur en France, car Rafael Correa, vous le disiez, est accusé de déstabiliser le pays de l'étranger. Pour rappel, il avait soutenu via son parti en Équateur, parti d'opposition, une motion de défiance contre le président Lasso. J'ai demandé à l'ancien président Correa s'il avait des liens avec Leonidas Issa. Il répond qu'il n'a jamais parlé avec lui, qu'il ne le connaît pas. Donc, si on résume, c'est un peu compliqué, hein. Des accusations d'ingérence impliquant un ancien président, une réduction de 15 centimes des prix du carburant pour mettre un terme aux manifestations, un dialogue qui s'ouvre mais qu'on voit est assez fragile, hein, entre le gouvernement et la CONAI. J'ai demandé à Rafael Correa ce qu'il pensait de cette sortie de crise, lui qui appelait à une révocation pure et simple de l'actuel gouvernement.
Je crois qu'on a perdu la tête. Et tout le monde des sacrifices pour ça. Il faut être plus responsable. On ne peut pas avoir des manifestations si fortes pour se contenter finalement avec 15 centimes de réduction au prix de l'essence et laisser en place un gouvernement tout à fait impopulaire, contraire aux gens, quand on avait les mécanismes constitutionnels pour avancer les élections et avoir une solution pacifique, démocratique, constitutionnelle au très grave conflit qu'a vécu le pays. Je ne suis pas d'accord avec les méthodes et les demandes de la CONAI. Eux-mêmes, ils l'ont soutenu. Ils l'ont fait, président Lasso. Ils l'ont fait gagner un programme néolibéral. Et après un an, ils protestent contre le néolibéralisme. Donc, il faut se mettre d'accord. On vit dans un système démocratique ou pas? Bien sûr, ce n'est pas possible de justifier la brutale répression qu'il y a eu contre la CONAI et contre les gens qui manifestaient dans la rue. Le gouvernement, c'est un échec total. Il doit être mis à la porte. Il doit avancer les élections pour démocratiquement résoudre les conflits et pour la corruption. Lasso a été impliqué dans le scandale de Pandora Papers. Mais comme il a la protection des médias des États-Unis, rien ne s'est passé. Mais seulement à cause de ça, il devait démissionner.
Votre parti a introduit une motion de censure contre Guillermo Lasso, motion finalement rejetée par le Parlement. Vous avez été accusé à ce moment-là par Guillermo Lasso de déstabiliser la démocratie en Équateur, d'avoir tenté de faire un coup d'État même. Qu'est-ce que vous répondez à cela?
C'est tout à fait constitutionnel et tout à fait démocratique. Parce qu'en plus, il y a quelques mois, il menaçait, ça s'appelle en espagnol la muerte cruzada, anticipation des élections. Il a menacé il y a quelques mois. Donc, ce moment-là était constitutionnel démocratique. Cancel et contraire, pour résoudre un très grave conflit, c'est un coup d'État, etc. C'est le double standard, le manque d'honnêteté qui est en train de détruire nos sociétés.
En tout cas, cette motion, M. Correa, elle a été rejetée. Donc, finalement, Guillermo Lasso a toujours suffisamment de soutien aujourd'hui en Équateur.
Pas du tout. Le problème, c'est qu'il contrôle le parti de l'Assemblée avec la corruption, en train de répartir, de donner un morceau de l'État à tous les... Tous les assembléistes qui les soutiennent, on les donne les hôpitaux, des écoles pour contrôler, des gouvernements locaux, etc. Donc, avec ces façons de faire politique, vous pouvez continuer.
Vous avez vous-même été condamné à 8 ans de prison pour corruption, M. Correa, pour des faits que vous avez toujours niés. L'Équateur a annoncé qu'une demande d'extradition avait été donnée à la justice belge, la Belgique où vous résidez depuis 2017. Est-ce que vous appréhendez aujourd'hui un éventuel retour en Équateur?
Je vous propose une chose ici. Nommez une commission de la vérité pour vérifier les cas contre nous. Si cette commission dit que ce sont des cas valables, légitimes, moi-même je rentre en Équateur pour aller en prison. Mais ce sont des choses ridicules et le monde ne dit rien. Des choses scandaleuses. Ce sont des choses monstrueuses qui l'ont sorti quelques heures avant de mon inscription comme candidat, pour m'empêcher d'être candidat. Mais personne ne dit rien. Et si c'était vrai, je n'aurais pas reçu l'asile politique de la Belgique. Ou la Belgique est complice de la corruption. Après 4 ans d'investigation, la Belgique a décidé de me donner l'asile politique. Cette décision, c'est reconnaître qu'on a des persécutés politiques, pas des corrompus. Game over. Il n'y a plus de discussion.
Mais vous avez toujours aujourd'hui, on peut le dire, une énorme influence en Équateur, même si vous avez quitté le pouvoir il y a 5 ans.
Bien sûr, c'est pour ça qu'il continue à me persécuter. Parce qu'il sait très bien que si je peux rentrer en Équateur, je vais gagner de loin les élections. Mais à cause de ça, il continue avec la persécution. Mais parfois, il me surestime, non? Parce qu'il croit qu'avec un iPhone et avec Twitter, je peux contrôler toutes les manifestations en Équateur.
Raphaël Correa, ancien président de l'Équateur, aujourd'hui en exil en Belgique. À votre micro, Marie Normand, merci. Il sera également l'invité de l'émission Géopolitique présentée par Marie-France Chatin, samedi prochain, le 16 juillet, donc 18h40, temps universel.
Le journal d'Haïti et des Amériques.
Et on fait le tour de la presse du continent à présent. Arim Lipold, bonjour.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
On s'arrête d'abord au Brésil où un militant du Parti des Travailleurs, le parti du candidat à la présidentielle Lula Ignacio da Silva, un militant de ce parti donc, a été tué par un sympathisant du président sortant Bolsonaro qui lui aussi brigue la présidence.
Oui, ça s'est passé dans le sud du pays à Foz do Iguaçu. Marcelo Arruda était en train de fêter son 50e anniversaire avec ses camarades du parti lorsqu'un surveillant pénitentiaire a fait irruption avec une arme. Il a affirmé qu'il reviendrait pour tuer tout le monde, selon des témoignages recueillis par le journal Carta Capital. Une vidéo de surveillance montrant la scène a été d'ailleurs publiée par le site d'information G1. Jorge Guaragno tient parole. Il revient effectivement un peu plus tard. Il sort son arme et il ouvre le feu sur Marcelo Arruda. Entre-temps, ce dernier a pu se procurer d'une arme aussi, avec laquelle il tire également sur son agresseur avant de succomber à ses blessures. Le militant pro-Bolsonaro, lui, a été hospitalisé. Il est dans un état grave, mais stable.
Selon les autorités locales citées par la G1, le mobile du meurtre est probablement politique, Harim.
Oui, lorsqu'il s'est présenté pour la première fois, le tueur présumé a crié des slogans pro-Bolsonaro. Et selon le journal Folha de São Paulo, bien la campagne présidentielle, qui n'a pas encore officiellement débuté, elle est déjà très très tendue. Il y a un risque que ces actes isolés se multiplient, écrit Folha de São Paulo. Le quotidien note que le président Bolsonaro n'a pas appelé au calme. Il a certes condamné toute violence, mais en ajoutant que les auteurs de violences sont généralement à chercher parmi les sympathisants de gauche. Il convient de rappeler aussi que le président d'extrême droite a, depuis son arrivée au pouvoir, facilité l'accès aux armes au Brésil. Et ce week-end, des centaines de personnes avaient d'ailleurs manifesté à Brasilia, la capitale, pour revendiquer le droit de s'en procurer.
Et puis à Cuba, il y a tout juste un an, le 11 juillet 2021, des milliers de personnes descendaient dans la rue pour protester contre la situation économique et pour plus de liberté politique. C'était du jamais vu en 6 décennies. Et ces manifestations ont été lourdement réprimées et depuis, les autorités continuent de maintenir la pression, selon Eduardo Cardet. Il est le coordinateur du mouvement chrétien de libération, mouvement dissident à Cuba.
Ça a été une année assez difficile parce que nous avons assisté à une augmentation de la répression et à une augmentation des procès sommaires lors desquels des condamnations très dures ont été prononcées, surtout à l'encontre de jeunes ou de femmes qui avaient participé à ces manifestations. On ne va pas se voiler la face. Nous avons aussi assisté à une aggravation de la crise sociale profonde qui existe dans notre pays, à cause bien sûr de ce régime raté qui ne s'intéresse qu'à rester au pouvoir envers et contre tout et qui n'offre que la misère et la répression comme alternative. La présence militaire et de la police politique est très notable dans les rues actuellement pour éviter que le peuple de Cuba ne sorte encore une fois massivement dans les rues pour réclamer la liberté.
Eduardo Cardet, joint à Cuba par Marcos Garcia Herrera de la rédaction espagnole d'RFI. Harim, la presse revient aujourd'hui aussi sur l'anniversaire des manifestations cubaines.
Oui, d'abord la presse officielle cubaine, le journal Granma par exemple, cite le président cubain Miguel Díaz-Canel qui admet que la situation économique et sociale est complexe mais que le pays va s'en sortir malgré un blocus plus important que celui des années 60 ou 70. S'agissant des manifestations du 11 juillet dernier, eh bien, le président cubain affirme de nouveau que ces rassemblements ont été orchestrés par des ennemis de la révolution. Pour lui, le premier anniversaire des manifestations est plutôt une occasion de célébrer la victoire du peuple cubain sur l'impérialisme.
Et dans la presse proche de l'opposition, le ton est différent.
Le site d'information 14 Imedio nous apprend que le célèbre opposant Guillermo Fariñas a été arrêté vendredi dernier, selon les informations divulguées par sa fille. Une arrestation qui, depuis 14 Imedio, ne relève pas du hasard. À 3 jours de l'anniversaire des manifestations anti-régime, le journal en ligne précise que Guillermo Fariñas vient de rédiger un rapport avec d'autres opposants sur les violences policières pendant la répression des manifestations, violences qui ont coûté la vie à un jeune de 17 ans, Zinedine Zidane Batista Alvarez.
Aux États-Unis, à présent, les auditions reprennent demain à la commission d'enquête parlementaire sur l'invasion du Capitole du 6 janvier 2021. L'enquête avance en coulisses et un proche de Donald Trump pourrait s'exprimer, Steve Bannon, son ancien conseiller stratégique, correspondance aux États-Unis de Thomas Arms.
Steve Bannon avait jusque-là refusé de se présenter devant la commission, même sous le coup d'une assignation à comparaître qui lui a valu 2 accusations d'outrage à magistrat. Pourtant, ce week-end, la commission parlementaire a reçu une lettre de son avocat accompagnée d'un courrier de l'ancien président, qui est à lire comme une injonction à ce que Bannon se présente devant la commission pour diffuser un message différent après les dépositions fracassantes de Cassidy Hutchinson, l'assistante du directeur de cabinet de Donald Trump. Dans ce courrier, l'ancien président le plaint pour la façon injuste dont il a été traité, pour le montant exorbitant dépensé en frais de justice et pour le traumatisme par lequel il doit passer pour l'amour de son pays. Donald Trump propose de retirer l'immunité présidentielle qu'il avait offerte à Steve Bannon, immunité que la commission n'a jamais reconnue. Quoi qu'il en soit, la proposition de déposition de Steve Bannon intervient alors qu'il est attendu ce lundi au tribunal pour essayer de reporter au mois d'octobre son procès pour outrage à magistrat, un procès qui doit normalement se tenir dans une semaine et où il risque jusqu'à un an de prison et 100 000 dollars d'amende. Thomas Harms, Houston. RFI.
Et enfin, au Canada, un mea culpa du gouvernement. Le Premier ministre Justin Trudeau s'est excusé auprès des descendants de militaires afro-canadiens.
Je suis ici aujourd'hui afin d'offrir les excuses du gouvernement du Canada pour la façon horrible dont ces patriotes ont été traités. Presque tous les volontaires venant des communautés noires se sont vus refuser l'honneur de servir leur pays.
Oui, c'était ce week-end, Marion, lors d'une cérémonie en Nouvelle-Écosse. Le chef du gouvernement s'est adressé aux descendants du 2e bataillon de construction, la seule unité entièrement composée de Noirs du Canada qui a servi pendant la Première Guerre mondiale, écrit Le Devoir. Selon le journal, les 600 soldats de ce bataillon ont été victimes de racisme. Ils s'étaient portés volontaires pour combattre sur le front en Europe, mais leurs candidatures ont été refusées à cause de leur couleur de peau. Les soldats n'étaient pas souhaités dans ce qui était considéré comme une guerre d'hommes blancs, écrit Le Devoir. Finalement, ils ont eu l'autorisation de rejoindre le front, mais seulement en tant que bataillon non combattant. Ils n'ont jamais eu le même soutien et les mêmes possibilités que leurs camarades blancs, a déclaré Justin Trudeau, en reconnaissant aussi qu'à leur retour, les membres du 2e bataillon de construction n'ont jamais reçu l'accueil en héros qu'ils méritaient. Selon Le Devoir, de nombreux descendants de ces militaires sont satisfaits de ces excuses qui permettront de mieux faire connaître l'histoire de leurs ancêtres.
Et c'était la revue de presse américaine d'Arim Lipold.
Le journal de l'Outre-mer.
Et à la une, cette mobilisation en Martinique pour réclamer l'ouverture de postes dans l'enseignement à la rentrée prochaine. Bonjour Odane Ajiali.
Bonjour Marion, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et oui, la coordination Ensemble pour défendre l'école en Martinique appelle à une manifestation aujourd'hui devant le rectorat à Schœlcher. Ces enseignants souhaitent que leurs collègues récemment diplômés puissent exercer sur le territoire au lieu de rejoindre un poste dans l'Hexagone. D'autres manifestations devraient avoir lieu dans les 34 communes de l'île ces prochaines semaines. Jacqueline Petitot, porte-parole de la coordination avec Bertrand Caruge.
Cette rentrée ne pourra être sereine que si les besoins sont satisfaits. Il faut qu'il y ait les postes nécessaires, il faut que les chefs d'établissement se plaignent amèrement que très souvent ils n'arrivent pas à obtenir de remplaçants lorsqu'ils ont des enseignants absents. Par exemple, nous estimons que nous ne pouvons pas nous résigner à cette situation complètement tragique pour notre pays. Diminution des postes, envoi de notre jeunesse qualifiée là-bas. Il faut dire stop. Alors donc, nous nous attelons à l'organisation d'une mobilisation générale du peuple martiniquais.
La porte-parole de la coordination Ensemble pour défendre l'école en Martinique, Jacqueline Petitot. On reste en Martinique au lendemain du marché artisanal et agricole de Fonds-Saint-Denis. Un rendez-vous reporté ces dernières années pour cause de crise sanitaire. Et un rendez-vous que ne pouvaient pas manquer les Picardons, défenseurs de génération en génération d'une agriculture paysanne. Grégory Gabour les a rencontrés.
Famille Picardon, je demande la mère. Georgette, la cinquantaine, cultive la terre depuis sa plus tendre enfance.
J'ai toujours suivi mes parents et je suis dans le milieu agricole privé de la banane, mais toujours attaché à ma culture vivrière.
Georgette, agricultrice dans l'âme comme son mari Maurice. Plus qu'un métier, un mode de vie donc que Maurice et Georgette ont inculqué à leurs deux enfants, Mathieu et Marie-Pierre. Cette dernière, titulaire d'un BTS et d'un bac agronomie du vivant, travaille sur l'exploitation familiale avant d'envisager de la reprendre quand ses parents partiront à la retraite.
J'ai été bercée dans le milieu. J'aime bien tout ce qui est nature, le contact avec les animaux. Et ça intéresse beaucoup de jeunes, en fait.
D'autres parents transmettent leur passion à leurs enfants et petits-enfants, perpétuant cette tradition ancrée dans la culture de la commune, la mère Annick Comier.
On a conservé cet état d'esprit d'agriculture paysanne, ces valeurs d'agriculture paysanne. Et puis, on essaie aussi de la perpétuer à travers les pratiques anciennes, les pratiques ancestrales qui reviennent au goût du jour, si je puis dire.
Environ 10% de la population denisienne travaille actuellement dans l'agriculture.
Un reportage signé Grégory Gabour. Et puis le plan blanc déclenché vendredi dernier au CHU de Guadeloupe. Décision prise suite à la forte augmentation de cas de Covid-19 sur le territoire. À demain Marion.
Merci Odane Ajiali. À demain, c'est la fin de ce journal des Amériques. Merci à Claude Battista qui était à la réalisation. Rendez-vous donc demain à la même heure, 13h10, temps universel.